Nilda Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chanteur, auteur, compositeur, star des années 90. On vous avait un peu perdu de vue. On peut avoir oublié votre nom, mais on peut pas avoir oublié ceci.
Une cicatrice pour que l'on puisse y voir. Où que l'on aille, nos fiançailles.
C'était Nos fiançailles, si j'ose dire, en 92, 400 000 exemplaires vendus. Ça rapporte encore des droits d'auteur aujourd'hui?
Ah non, pas suffisamment pour... Non, c'est très, très... C'est pas non plus les grandes chansons internationales.
Je vous ai présenté comme chanteur, mais vous-même vous dites que c'est là un mensonge, que vous n'êtes pas un chanteur, mais un artiste qui chante. Quelle différence vous faites?
Parce que chanteur, on peut être de toutes sortes. Et moi, j'ai jamais rêvé de chanter. Je me suis jamais retrouvé devant une glace avec un micro. J'ai toujours pensé que le regard d'un artiste était intéressant dans une société. Je me suis aperçu que c'était celui que je portais depuis l'enfance, finalement.
Alors, vous venez de publier un livre aux éditions de l'Archipel. C'est une autobiographie. Le titre « Conte de mes mille et une vies ». Alors, conte, le mot est bien choisi. Parce que parfois, on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Quand vous avez tout relu, vous vous êtes dit quoi?
Quand je l'écrivais, parfois j'étais fatigué. Je me disais, ça me fatiguait de raconter toutes ces aventures, parce que c'en est. J'étais même étonné moi-même, mais je crois que c'est l'enchaînement de la vie, des choses. Même si, quand on pense à notre vie, on est toujours un peu fatigué.
Vous n'avez pas enjolivé?
Non, il n'y a pas besoin.
Vous racontez aussi bien le show business. Là, vous enjolivez pas, vous les désinguez à la Kalachnikov. Que votre enfance, immigré espagnol à Barcelone, puis à 7 ans, vous débarquez à Lyon. Nos ancêtres les Gaulois, ça vous plaisait? Quand on vous apprenait ça?
Oui, c'était exotique pour moi. C'était comme un rôle dans lequel j'étais, quoi. Ça me dérangeait pas. Je crois que mes parents ont tout fait pour qu'on soit français. Ça les intéressait pas de penser au retour. Beaucoup de gens qui changent de pays mettent dans la tête de leur enfant le retour possible. Il y a une espèce de grosse nostalgie. Comme ma mère était orpheline, qu'elle avait pas de frère, pas de sœur, donc le retour en Espagne, ça n'intéressait pas. Et ça nous a permis, à nous, d'être français, quoi.
Vous parliez quelle langue à la maison?
On parlait espagnol.
Nilda, c'est un pseudonyme. Votre vrai prénom, c'était Daniel. Or, j'ai découvert qu'avant votre disque dont tout le monde a parlé, vous aviez sorti un disque sous le nom de Daniel Fernandez. Pourquoi avoir changé de prénom?
Quand on a un nom et un prénom comme tout le monde, et qu'on n'est pas dans un métier public, on vous dit Monsieur Vandel, on vous dit Philippe,
ouais.
Mais on vous dit rarement Philippe Vandel. On dit.
Ouais.
Donc, dans mon cas, c'est pareil. Et je me suis aperçu que ce Daniel Fernandez est devenu une marque sur des disques, c'est devenu une marque sur des affiches. Ça me dérangeait parce que j'avais plus de solution de repli. C'est-à-dire, tout était exposé, j'étais en une dimension, quoi.
À un moment donné, vous avez vraiment été interdit de concert en Argentine à cause de votre prénom qui faisait fille?
Oui, dans une ville argentine, dans une tournée, on arrive et puis l'évêque avait interdit le concert. Il avait convaincu le maire de ne pas nous laisser la salle. Et c'était tout simplement parce qu'il croyait que j'étais transsexuel ou je sais pas ce qu'il croyait. Mais un mec avec un prénom de fille, ça... Surtout que Nilda, ce que je ne savais pas en changeant de prénom, est un prénom féminin en Argentine.
Il veut dire quelque chose ou pas?
Non, c'est comme Cécile. Je pense qu'en arrivant en Argentine, les gens ils m'ont vu arriver comme Cécile ou Sandrine. Sandrine Fernandez, imagine.
Alors, il y a une image qui a frappé tout le monde ici. C'était en 97, votre tournée en roulotte. Vous alliez jouer de village en village, 40 km par jour à 5 km/h. Pourquoi ce choix?
40 km, c'était le maximum,
ouais.
À chevaux. Bah, justement parce qu'on ne pouvait pas faire plus que 35-40. Et ça m'intéressait, qu'on ait des limites.
Quel but vous poursuiviez? Parce qu'il n'y a pas une grande ville tous les 40 km.
Non. Ça pouvait être un hameau, ça pouvait être un village, une place de village, un gymnase, ou une grande ville, parce qu'on a joué aussi sur une place à Lyon, à Montpellier, voilà.
Alors, la fin de la tournée, ce furent des concerts à Paris. Vous aviez bloqué la circulation et des embouteillages, vous le racontez dans le livre, avec votre roulotte entre Bastille et République. Pardon de dire ça, mais c'était pas un peu démago d'être en roulotte dans Paris?
Non, c'était du panache, quoi.
Ah, mais en même temps...
Pourquoi démago? Non, c'était...
Bah, tourner le dos au marketing, c'est une forme de marketing.
Alors, c'est ce que me disaient les journalistes ou la question qu'ils me posaient. Et moi, je leur répondais, oui, effectivement, c'est du marketing, mais c'est le mien, et c'est pas celui de la maison de disques.
Nilda Fernandez avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Le chanteur, auteur, compositeur Nilda Fernandez avec nous qui vient de publier « Conte de mes mille et une vies ». Il est écrit « Conte » sur la couverture, en même temps, vous racontez votre vie, c'est une autobiographie. Vous racontez des choses assez étonnantes. Par exemple, en 2001, vous avez un bon contrat, votre maison de disques attend de vous un nouvel album. Et là, vous décidez de ne pas faire le disque et de rompre votre contrat pour partir à l'aventure en Russie. Qu'est-ce qui vous a pris?
L'appel du grand large, je suis arrivée en Russie comme touriste, invitée par une amie, j'ai connu Moscou, et le deuxième jour, le premier jour c'était évidemment le baptême à la vodka, et le deuxième jour c'était la rencontre avec un chanteur qui me connaissait, qui connaissait mes chansons, qui croyait que j'étais une fille, enfin bon.
Une des 10 plus grosses stars russes de l'époque, Boris ouais. Moïsev, et il vous dit...
Je veux faire de toi une star en Russie.
Et là vous dites d'accord.
J'ai écouté sa musique, elle était très 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 variété, très très kitsch, et mais en même temps c'était une espèce d'alliance avec le diable qui m'intéressait. Et voilà, j'ai décidé de le suivre, et on a fait deux énormes chansons qui sont des tubes encore aujourd'hui dans l'esprit des Russes.
Mais vous avez habité là-bas, vous avez appris ouais. la langue.
Bien sûr.
Alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que en France, vous tourniez le dos au Star System, mais vous acceptez de devenir une star, ou vous en avez envie, en Russie.
Bah oui. Parce que ce qui est intéressant, c'est la connaissance. C'est pas qu'ici je tournais le doigt à quoi que ce soit, c'est que moi, je connais, il y a rien à découvrir. Là-bas, le star system et le show business, il est puissance 100, quoi. C'est incroyable. Les conflits se règlent à la Kalachnikov, enfin voilà.
Vous avez dit une fois, je ne me suis jamais senti aussi bien que quand je n'avais aucun contrat avec aucune maison de disques. C'était de la provoque ou vous le pensiez vraiment?
Non, non, chaque fois que j'ai posé ma signature en bas d'une page, je commençais les inquiétudes. Bah oui, pour moi, c'était pas la fin de quelque chose, c'était le début d'une privation.
Ah, vous êtes à l'envers, parce qu'en général, les chanteurs, ils sont inquiets quand ils n'ont pas de contrat.
Oui, peut-être, mais bon, ça se commande pas, je sais pas.
Alors, à lire le livre, chapitre après chapitre, Nilda Fernandez, on a l'impression que vous êtes James Bond. J'ai tout lu. Vous n'arrêtez pas de passer d'un pays à l'autre, comme James Bond. Vous descendez des quantités assez astronomiques d'alcool, tout en restant lucide. Et alors, surtout, quel succès avec les femmes. Tamara, croisée au casino d'Yalta, bim. Sylvia, une jeune femme qui vous fait la bise comme ça, sur Times Square le 31 décembre. Elle vous annonce qu'elle est lesbienne, mais qu'elle va faire une exception pour vous. Cindy, la guide de votre séjour chez les Indiens des États-Unis, qui se déshabille dans son tipi. Vous avez enjolivé, ou c'était vraiment, ou c'est vraiment votre quotidien?
Oui, parce que là, les pages se succèdent, ouais. Donc on a l'impression que c'est au quotidien, mais non. Non, non, c'est pas au quotidien, c'est des épisodes, des moments.
Est-ce que vous avez enjolivé, ou est-ce que vous avez ce pouvoir de séduction sur les femmes?
C'est difficile de parler de soi, mais en tout cas, elles ont aussi un pouvoir de séduction sur moi. Hein.
Ça m'avait pas échappé.
Donc, je crois que c'est dans les deux sens. On peut pas, enfin, on n'oblige personne. Hein. Il y a une attraction, et à un moment, elle se concrétise par un petit bisou, voire plus, une nuit, voire un mois, une année ou plus. Voilà. Donc, c'est...
Et sinon, j'ai jamais vu quelqu'un à qui on prêtait autant d'appartements. Ah bon? Où vous alliez, on vous prête des apparts, des maisons, des cabanes, un appartement, il y en a un au nord de Paris, un au sud, un en Espagne. On vous prête tout le temps des apparts. Comment vous faites?
Parce que pendant longtemps, j'en ai pas acheté, donc il fallait bien qu'on me prête.
Ah, mais il y a plein de gens qu'on n'a pas acheté et qu'on n'en prête aucun.
Alors, je sais pas. Oui, ça, c'est une chose que j'ai pas... J'ai
vous n'avez pas fait attention en le lisant?
Non, non, non. Je suis comme un coucou, quoi. Je vis dans le nid des autres, c'est ça?
Oui, mais il faut avoir la chance qu'on vous propose son nid.
Avant Airbnb, oui.
Ça n'a aucun rapport. Comment vous vous imaginez dans 15 ans? Est-ce que vous imaginez faire encore de la chanson, d'écrire?
Moi, quand j'entends des interviews, des réponses d'artistes qui débutent, qui disent « je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas ». Ça me choque, parce qu'en réalité, ils se placent dans une sorte de péremption.
Ouais.
D'eux-mêmes, comme si être artiste, ça dépendait d'une vente de 10, ça dépendait du chiffre. Non, tu décides d'être artiste, coûte que coûte, tu le sauras, parce que c'est ce qui t'intéresse.
Nilda Fernandez avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Nilda Fernandez avec nous, auteur, chanteur, compositeur qui vient de sortir chez L'Archipel, Les Contes de mes mille vies, il y en a même plus que ça dans ce livre. Vous lisez ce que la presse écrit sur vous?
Oui, 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 sur un livre, oui, parce qu'un livre c'est aussi, c'est une élaboration qui, c'est bien de savoir ce que les gens en pensent, comment ils le voient.
Même sur le reste, je veux dire pourquoi je vous en parle, j'ai retrouvé un titre de François de janvier 2000, le gros titre c'est « J'ai toujours menti ». Je me dis, tiens, il a toujours menti. Or, quand on lit l'article, on trouve que c'est extrait d'une phrase dans laquelle vous dites « À chaque fois qu'on m'a posé la question sur mes influences musicales, j'ai toujours menti car j'ai toujours oublié quelqu'un ».
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le pouvoir des titres. Et oui, parce que pendant longtemps, j'ai dit Ferré, puisque je l'avais connu et tout ça, et j'oubliais Joe Dassin, par exemple. Et qui pour moi était un personnage important.
Et il y en a encore un de plus honteux, parce que sur les premières interviews, vous ne juriez que par Barbara, Brel, Ferré, Brassens. Sauf qu'avant cela, ouais, ouais. Vous étiez fan de Clo-Clo et de Joe Dassin. Et de Claude François.
Ça, Claude François, beaucoup moins, je l'entendais. Et non, surtout Dassin, je ne sais pas, peut-être le journaliste interprété, mais moi, c'était Dassin, oui. Vous avez de la classe, ce type, hein. Il avait une grande classe. Et c'est bizarre, parce qu'en arrivant en Russie, je suis tombé sur un pays, je suis arrivé dans un pays fan absolu de Joe Dassin.
Alors, c'est pas trahir un secret que de dire que vous n'êtes pas baraqué, pas énormément. Est-il vrai que quand vous étiez môme, vous vous battiez beaucoup ?
Beaucoup, non, mais je me laissais pas faire, ouais, parce que...
Ah, vous l'avez dit à Libé. Quand j'étais môme, je me battais beaucoup.
Oui, bah, je me battais, quoi.
Vous avez aussi dit que vous avez fait 15 ans de karaté, c'est vrai ?
Non.
J'ai 15 ans de karaté derrière moi, Libération, 23 décembre 93.
C'était du aïkido et un autre art martial, mais pas le karaté.
Non, on n'est pas très très loin, mais vous avez fait 15 ans d'art martial.
Pas 15 ans, non.
Nilda Fernandez, est-il vrai que votre maman était la seule personne que vous laissiez vous appeler Daniel ?
Et mon père aussi. Mon père aussi, les deux. Les deux. Évidemment, c'est eux qui m'avaient donné ce prénom. Je ne vois pas comment ils auraient pu changer.
Et le reste de votre famille ?
Nilda, tous. Mes frères, et quelques cousins en Espagne qui, eux, sont restés.
Est-il vrai que vous avez refusé un contrat publicitaire mirobolant qui voulait utiliser votre chanson Les fiançailles dans une pub ?
C'était une autre chanson, mais c'était... Oui, c'était... je ne sais plus si c'était Dior ou Chanel ou un truc comme ça. Oui. C'était pour un parfum.
Et pourquoi vous avez dit non ?
Parce que c'est une chanson que les gens avaient aimée et qu'on n'a pas le droit de leur prendre pour le donner à autre chose. C'est malhonnête, quoi.
Pardon de dire ça, mais ça arrondit les fins de mois.
Oui, mais on peut être gangster et pour arrondir les fins de mois. Non, l'argent ne justifie pas tout, je crois.
Est-il vrai que l'écrivain René Belletto, qui est connu pour son chef-d'œuvre L'Enfer, vous en a piqué l'idée ?
Alors, c'est plus ambigu que ça, parce que moi, j'ai lu L'Enfer un jour, j'étais en studio, mon premier album, et j'ai commencé à lire, et j'étais extrêmement troublé.
Je vais dire pourquoi. Vous l'écrivez page 96. Je lis L'Enfer de René Belletto, dont les premières pages me troublent par leurs analogies avec mon manuscrit envoyé au jury d'un prix littéraire que cet auteur présidait. Il vous a piqué l'idée ?
Oui, l'ambiance du début. Pas le livre entier, après ça va vers son truc, mais tout le début, oui, c'est ça, c'est moi, c'est une ville chaude, les pompiers, la présence de la mère au téléphone, enfin c'est un livre qui n'est jamais sorti, mais que lui a eu, dont il a eu la connaissance.
Ouais. Et vous l'avez appelé pour lui dire ?
Ah non, je ne le connaissais pas. Et puis c'est difficile, on ne peut pas parler de plagiat parce qu'il n'y a pas les mots, il n'y a pas les phrases, c'est juste l'ambiance.
Est-il vrai qu'en Russie, vous n'avez jamais demandé un copec, c'est le cas de le dire, sur les ventes d'albums ?
Oui, mon chanteur duettiste, il a vendu beaucoup de disques.
Ouais.
Et puis bon, j'ai pas gagné d'argent là-dessus, je gagnais de l'argent sur les concerts qu'on faisait. Mais bon, il m'a jamais proposé non plus. Donc en Russie, tout est tellement opaque que c'est même pas la peine.
Nilda Fernandez, est-il vrai que vous savez déjà comment vous souhaitez mourir ?
Ça, je le dis pas dans le livre. Ça a dû être dit quelque part.
Vous l'avez dit aux Parisiens en mars 94. Vous avez dit, je souhaite mourir seul.
En marchant, ouais.
Pourquoi seul ?
Non, pas forcément seul, mais en marchant, en étant sur la route, sur quelque chose. À une époque, je me disais, je prendrais un cheval et je partirais.
Crin blanc ?
Crin noir, je préfère un cheval noir.
Merci beaucoup, Nilda Fernandez, d'être venue nous voir.
Merci, Philippe.